I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Yoann Uzaye est avec nous et vous le connaissez, il est journaliste au service politique. Georges Fenech, Gilles-William Golnadel, Jérôme Béglé et Olivier Tartigol. J'espère que Jérôme sera réveillé ce soir.
Mais pourquoi vous faites ça? J'ai endormi, hein?
La clientèle s'est plainte.
Vous êtes venu faire votre sieste sur ce plateau hier soir. Mais bon, aujourd'hui, je ne doute pas que vous direz des choses pertinente sur toutes les actualités. Mathilde Panot, convoquée. Elle a été convoquée par la police. La présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale est convoquée dans le cadre d'une enquête ouverte à la suite d'un communiqué du groupe parlementaire publié le 7 octobre. Alors, Philippe Guibert l'avait dit, et je le rejoins. C'est quand même très étrange qu'on convoque la police pour quelque chose qui a été publié le 7 octobre. Ça, je peux quand même m'en étonner. À noter, oui, c'est pour ça. C'est
plus tard que jamais.
C'est le communiqué.
C'est entendu. Bon, pour le reste, Madame Panot.
Son étonnement m'étonne, mais c'est pas grave.
Le timing. Non, mais interrogé.
Je peux on peut pas me suspecter d'être un soutien de Mathilde Panot.
La preuve.
Non.
Bon, j'ai reçu ce jour une convocation pour être entendue dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme. Pourquoi pas? Nous ne nous tairons pas. Aucune convocation, aucune intimidation de quelque nature que ce soit ne nous empêchera de protester contre le génocide en cours contre le peuple palestinien. J'appelle tout un chacun à prendre conscience de la mesure des atteintes alarmantes contre la liberté d'opinion et contre la démocratie. Également, un communiqué de la France Insoumise. Cette convocation intervient à la suite d'une longue liste d'autres tentatives de faire taire les voix en faveur de la paix, annulation de deux conférences de Jean-Luc Mélenchon, de Rima Hassan, convocation pour apologie du terrorisme, etc. Alors, c'est vrai qu'on peut considérer que Mme Panot, Mme Hassan, ce sont des propos de nature à faire l'apologie du terrorisme.
Pourquoi bon, la plainte de novembre.
Je voudrais qu'on écoute.
L'endormi voulait dire une phrase, mais il la dira après.
Je voulais juste qu'on écoute Thomas Bonnet, et je vous jure, après, je vous donne tous la parole. Ouais.
Selon le communiqué publié ce mardi par Mathilde Panot, cette convocation de l'élue insoumise dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme se fonde sur une publication officielle du groupe parlementaire de la France Insoumise en date du 7 octobre dernier. C'est à cette date que la France Insoumise avait publié ce communiqué, quelques heures seulement après l'attaque terroriste du Hamas. Un communiqué qui s'ouvrait avec cette phrase « L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas ». À aucun moment il n'était fait mention du mot « terrorisme ». Mathilde Panot évidemment s'offusque de cette convocation qui intervient quelques jours seulement après une autre convocation adressée cette fois-ci à Rima Hassan, la numéro 7 sur la liste de la France Insoumise pour les élections européennes. Selon les informations du Monde, Rima Hassan est convoquée pour des propos tenus entre le 5 novembre et le 1er décembre dernier. Vraisemblablement, des propos qu'elle aurait pu tenir sur le réseau social X. Elle avait notamment tweeté le slogan « From the river to the sea », de la rivière à la mer, qui peut être considéré comme une négation de l'État d'Israël. Un peu plus tôt, c'est Daniel Obono, autre député de la France Insoumise, qui était visé par une plainte directement adressée par Gérald Darmanin, qui a saisi la justice après que Daniel Obono a prononcé sur l'antenne de Sud Radio les mots de résistance, mouvement de résistance, c'est ainsi qu'elle avait qualifié l'organisation terroriste du Hamas.
Et c'est une interview célèbre qu'avait réalisée, en l'occurrence, Jean-Jacques Bourdin. Jérôme Béglé.
Je suis de ceux qui pensent qu'il y a un avant et après cet octobre. Il y a des propos gentiment antisémites, gentiment défavorables.
Gentiment antisémites.
Laissez-moi parler. Gentiment favorables au Hamas, qui étaient tolérés dans certains milieux avant le 7 octobre et qui ne le sont plus en aucun cas aujourd'hui. Et c'est pour ça que la prise de conscience tardive de la justice qui agit un peu plus de 6 mois après, me semble être la preuve qu'une ligne a bougé. Et que quelque chose qu'on entendait, qui pouvait nous faire sursauter, mais qui ne méritait pas de passer devant les tribunaux, passer non pas crème, comme vous dites, mais sous les radars, aujourd'hui, ça ne passe plus. Et au moins, cette prise de conscience, si elle est durable, et je pense qu'elle peut être durable, peut être un peu salutaire en France, dans certains milieux médiatiques et de justice. Je ne sais pas ce qu'en pense Maître Elbogol Nadel, mais...
Non, mais il y a deux choses, d'abord. Sur les dates en question qui vous étonnent, sur des propos qui sont en novembre, et dont on a à répondre en avril dans le cadre d'une enquête de police, après une plainte d'une association... C'est d'une banalité absolue. C'est parce que Madame Panot décide d'en faire la publicité qu'on en parle. Vous dodelinez de la tête. Je parle de ce que je connais. Et je parle sous le contrôle d'un magistrat. Il n'y a rien de plus banal qu'une convocation par la police. Dans le cadre d'une enquête, c'est comme ça que ça se passe. Ça, en matière procédurale. Donc, il décide de jouer dans la martyrocratie, hein, de se victimiser sur l'autel de la liberté.
Ça allait plus vite pour François Fillon.
Bien.
Ça
veut dire... Mais ça n'a rien de truc.
C'est pas la même chose.
Alors, effectivement, M. Fillon, il a battu tous les records du monde de rapidité. C'est pas l'étalon le plus sûr pour mesurer les choses, premièrement. Deuxièmement, sur le fond, Mme Panot aura, c'est normal s'il y a une plainte, là, aura à répondre de ce qu'elle a dit. Ensuite, Mme Obonneau, sur effectivement intervention du ministre de l'Intérieur, tellement c'est énorme de qualifier une organisation terroriste d'organisation de résistance, devra en répondre avec beaucoup de problèmes. Madame Hassan, qui effectivement dit oui, le Hamas c'était une action légitime, aura aussi quelques problèmes en justice. C'est tout à fait la norme. Et pour terminer, évidemment, après le 7 octobre et un massacre de masse, effectivement, malheureusement, la vie a changé pour ces gens-là.
Sur le fond, il n'y a même pas de discussion. Bon. Vous dis sur le timing, m'interroge. Alors vous dites que c'est banal. Bon.
Oui.
Ouais, je porte exactement la même analyse que celle de Gilles Williams. J'ajoute simplement que les politiques ne sont pas au-dessus des lois. Voilà. Que dès lors qu'il y a des propos qui ne sont pas, je dois le rappeler, couverts par l'immunité parlementaire, puisqu'on est en dehors de l'hémicycle, à partir du moment où ces propos sont estimés par le parquet d'office ou saisis par une association, je ne sais pas, tombant sous le coup de la loi de 2014, le calendrier judiciaire n'est pas le calendrier politique.
Elle peut être condamnée ? C'est ça qui nous intéresse.
J'imagine, si effectivement... Non,
est-ce que, par exemple, ça tombe sous le coup...
Je pense qu'elle peut tomber sous le coup. Le fait de dire, sans mettre le qualificatif terroriste, que le Hamas a répondu quasiment, entre guillemets, légitimement, enfin c'est pas son terme, à une situation d'occupation illégale d'Israël, par Israël, ça peut effectivement être analysé comme une banalisation de cet acte de terrorisme.
C'est exactement le même type de justification qui a fait qu'à Lille, le patron local de la CGT a été condamné.
Oui, en première instance. Mais il n'y a rien d'extraordinaire. Je suis en total désaccord avec vous tous. D'abord parce qu'il me semble que vous devez réfléchir un peu plus, j'allais dire quasiment sérieusement, à la liberté de réunion et d'expression.
Comme celle de M. Zemmour ou de Valeurs Actuelles, par exemple.
Je ne vous ai pas interrompu.
Non, mais je vous dis.
Non, mais je ne vous ai pas interrompu. J'étais très attentif à vos arguments.
D'accord.
D'abord, conquête républicaine sur la liberté de réunion et d'expression. Première chose. Deuxième chose, un petit sujet concernant le délit d'apologie du terrorisme né de la loi de 2014, qui a bien sûr suscité beaucoup de procédures depuis le 7 octobre, c'est bien normal. Beaucoup d'avocats et de juristes avaient indiqué alors, dont Richard Malka, que le cadre de cette nouvelle loi pouvait poser problème dans son interprétation. Je vais vous dire une chose, je suis en total désaccord avec la position des Insoumis depuis le 7 octobre. Mais cela relève du débat politique. Cela relève du débat parlementaire. Comme par exemple, on dit, c'est mon avis, Pascal Braud. C'est-à-dire que si,
On a compris, mais c'est vrai qu'il a raison, Gilles Wilhelm Goldnadel. Quand c'est Éric Zemmour, chacun se sert des condamnations qui sont apportées contre lui pour le discréditer du débat politique. Et quand c'est l'extrême gauche, ça devient un débat politique.
Du terrorisme.
Ça devient un débat politique.
Je vous parle pas d'incitation à la haine.
Attendez, parler de génocide palestinien,
je termine là-dessus en disant simplement qu'il sera intéressant de voir comment la justice se positionne, voir la seconde instance à Lille, et j'ai bien connaissance du contenu du tract. Et ça va poser un problème politique sur la manière de prendre le débat et le conflit israélo-palestinien.
Enfin, pardon. Bon. Non, mais il n'y a pas de débat. À mon sens, il n'y a pas de débat, si vous voulez. Parce que déjà, quand on refuse de dire que le Hamas est une organisation terroriste, ça devrait clore le débat. Ça en dit long sur qui sont ces gens. Quand on refuse de
combien
dire...
condamnable, oui.
Non, mais quand on refuse de dire que ces personnes... Il n'y a pas de mots pour les qualifier, en réalité, sont des terroristes. Voilà, on sait tout de suite à qui on a affaire. Il faut préciser quand même que ce communiqué abject de la France insoumise, donc signé par la présidente du groupe Mathilde Panot, il est publié le 7 octobre, le jour même de ce pogrom, où le monde entier est abasourdi par ce qui s'est passé et sous le choc.
Non, mais c'est pas critiquer, ça doit te mettre en dehors. Non, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est toujours deux poids, deux mesures. L'offensive armée de forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Nous déplorons les marins israéliens et palestiniens. Nos pensées vont à toutes les victimes.
Évidemment, vous pensez que ça relève d'une justification.
C'est une justification de ce pogrom le jour même où il a été commis. Point. Fin du débat.
Jim William, et après on écoutera Mme Panot.
Pour répondre à M. D'Artigol, dans l'absolu, je suis un partisan, c'est mon article dans le Figaro, acharné de la liberté d'expression. À l'américaine. J'aimerais qu'on puisse tout dire.
Je partage votre
sauf
avis.
Qu'on vit dans un pays.
Je partage votre
sauf qu'on avis. Vit dans un pays où on guette le point virgule et le très bas, et ceux qui ont fait les frais pendant des années à la requête de l'extrême gauche, ce sont les gens de droite. Alors là, il n'y avait pas de problème.
Et tout d'un coup,
maintenant qu'on réclame des comptes à l'extrême gauche, vive la liberté.
Donc c'est une vengeance. Attends, c'est une vengeance politique.
C'est trop facile.
C'est une vengeance politique.
Je ne comprends pas votre position.
Pourquoi?
Elle est intenable.
Pourquoi il y aurait une extraterritorialité?
Elle est intenable, votre position.
Donc vous dites qu'il n'est pas possible. Vous dites qu'il n'est pas possible de condamner politiquement tout en disant que ça ne relève pas d'une judiciarisation. C'est pourtant simple à comprendre.
Et pour M. Zemmour, pourquoi on ne le fait pas ça? Et pourquoi on ne le fait pas pour M. Zemmour, M. D'Artigol? Je ne vous ai pas entendu sur M. Zemmour.
Ce ne sont pas les mêmes qualifications.
Un génocide, c'est quand même pas rien.
Ce n'est pas la loi de 2014.
Laisser la justice.
Ah oui, mais ça va être passionnant.
Pas tous ensemble. La justice.
Pas
tous ensemble. Bon, écoutez, Madame Panot, elle était interviewée il y a très longtemps par Monsieur Aziza, qui vraiment a fait le job, j'ose dire,
comme toujours,
dans une conférence de presse, et qui lui a fait dire, en tout cas, chacun a compris ce qu'elle ne voulait pas dire et pour quelle raison.
C'est la branche armée qui aujourd'hui est responsable des crimes de guerre, voilà, et c'est largement documenté. Vous pourrez. Mais j'ai répondu sur terroriste en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous vous contenterez de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de.
Non, mais le fait qu'elle quitte le micro et qu'elle
dit
en dit très long sur son impossibilité d'aller plus loin de ce qu'elle pense.
Ce qui est effrayant, je veux dire, ce qui est effrayant dans la séquence qu'on vit, même un peu en vous écoutant, cher Olivier, c'est que ces gens devraient être discrédités.
Par le vote.
Je termine juste ma phrase.
Pardon, Pascal.
Ils devraient être discrédités dans l'espace public. Discrédités. Et hier, M. Mélenchon va à Sciences Po et des étudiants qui seront demain aux commandes de la France, peut-être, l'applaudissent et disent « Rima, Sciences Po est avec toi ».
Il faut donc mener une bataille politique et idéologique.
Non, mais c'est pas seulement ça.
La bataille des idées.
Si demain je nie les camps de concentration,
c'est du réveil.
Nier un génocide, c'est pareil.
Je pense que monsieur
Fourisson. C'est quand même génocidaire.
Si vous me permettez, Fourisson et l'exemple est très bon.
Oui, bien sûr. Oui.
Fourisson a été exclu en l'occurrence de Lyon plusieurs fois. De Lyon 2,
heureusement,
à l'époque. Et c'est les lois Guesso, d'ailleurs. Quelqu'un qui vient sur un plateau et qui nie l'existence des chambres à gaz. Il est juste sorti du débat public et politique.
Et c'est sans appel.
À juste titre.
C'est sans appel.
Et qu'a fait David Guiraud, le député de la France Insoumise? Est-ce qu'on n'est pas dans le négationnisme, là, quelque part? Quand il dit les bébés qu'on a retrouvés dans les fours n'ont pas été placés là par le Hamas, mais ont été placés là par Israël. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de négationnisme là-dedans?
Bon. Il nous reste que deux minutes, malheureusement, sur cette première partie. Mais moi, je sais que c'est très intéressant, d'ailleurs, d'écouter les uns et les autres, forcément. Plus de 130 personnes ont été arrêtées dans la nuit à New York, devant les locaux de la prestigieuse université de New York. après des manifestations étudiantes pro-palestiniennes, a indiqué mardi la police. Ces 133 personnes ont été relâchées, affirmé un porte-parole de la police new-yorkaise. Ce sont les étudiants de Columbia qui suivront des cours à distance puisque l'université est fermée. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui en Occident, ce qui se passe à Londres, ce qui se passe à New York, ce qui se passe moins à Paris hein, d'ailleurs.
Moins.
C'est important de le rappeler à chaque fois. Mais c'est vrai que ça montre quelque chose qu'on n'avait jamais vu en France, qu'on n'avait jamais vu en Occident.
Moi. Oui. Tu l'avais annoncé. Oui, oui. Le retournement de situation.
Bien sûr, c'est vrai qu'Israël serait nazifié après avoir été pogromisé. C'est vrai qu'en France, vous avez raison, il y a moins de ce type de manifestations, mais il y a plus de massacres. C'est quand même embêtant.
Puisqu'on parlait de la France insoumise, moi je me sens obligé, parce que je trouve que c'est important, de préciser que Rima Hassan, en parlant de ces étudiants qui, notamment à Columbia, ont formé des chaînes humaines pour empêcher les étudiants et les professeurs juifs d'accéder à l'université, eh bien Rima Hassan, qui est candidate sur la liste des européennes de la France insoumise, a félicité ces étudiants, a posté la photo d'une de ces étudiantes, notamment avec un cœur, pour lui dire tout le bien qu'elle pensait d'elle.
Mais comme vous le dites, les gens pourront voter, ça sera intéressant. Je remarque que Manon Aubry, elle n'existe plus. Hein.
Alors ce qui va être... Oui, alors c'est Rima Hassan, de liste en fait.
Manon Aubry, que j'avais reçu plusieurs fois, qui n'est pas du tout sur cette liste-là. Parce que Manon Aubry, elle est sur une gauche radicale, notamment sur le plan économique. On a eu des échanges avec elle, mais il me semble qu'elle n'est pas sur...
Ce qui va être très intéressant à suivre, c'est que de fait, Rima Hassan devient tête de liste.
Oui. Mais qu'est-ce qu'a dit Madame... Madame Aubry, tous ces gens en fait disent rien. Ils se couchent.
Ce qui va être très intéressant, c'est le résultat.
Parce que qui ne dit mot consent.
Le calcul électoraliste des insoumis est de dire que ce discours poussé à bloc et jusqu'à l'horreur, pour moi, va amener une mobilisation dans des quartiers qui normalement sont dans l'abstention massive pour ce type d'élection.
Je n'y crois pas.
Non, mais c'est le pari qu'ils font.
Oui, depuis le début, je pense que c'est un pari perdant. On l'attendra le 9 juin.
Ils perdent d'un côté. Il y a un départ d'un électorat vers Guzman qui avait voté Mélenchon à la dernière présidentielle au premier tour. Mais ils pensent pouvoir recruter des troupes
nouvelles. La sondage qui va
là, les amis.
La pause. Si vous avez le résultat du 9, moi je ne l'ai pas.
Écoutez, la pause. On avait beaucoup de choses à parler. On n'a parlé que d'un thème. Je suis très inquiet pour le reste de l'émission. Je pense qu'on peut faire une émission jusqu'à 1h du matin avec tous les thèmes qu'on avait prévus.
Vous voulez qu'il parle, il parle. Hein. Ça, c'était inévitable. Je le savais que ça se passerait comme ça.
Bon, on va revenir avec une image légère, si vous voulez bien. Vous avez vu Brigitte Macron avec Aya Nakamura?
Ah oui, vous avez vu ça?
Brigitte Macron avec Aya Nakamura. Vous avez vu cette image?
Non, je ne sais pas. Je ne dis rien, moi.
Ben, on va la voir tout de suite après.
Elle est filtrée, j'ai l'impression.
Elle est filtrée?
Ah oui, il y a un filtre, très clairement.
Ah oui?
Il y a un beau filtre.
Ah, oui,
un...
ah bon? Ah oui, vous êtes fort.
Vous n'avez pas besoin, vous genre.
D'accord. Non, vous n'avez pas. Mais quoique beaucoup soulignent cette nouvelle.
Le filtre, ça rajeunit.
Oui, c'est vrai. Parce que je voulais dire.
C'est pas gentil. C'est vraiment pas gentil.
Je sais pas de quoi.
Mais non, il n'y a pas de filtre. Mais non, et en plus, il n'y a pas de filtre. Dites pas ça. C'est, oui, il a raison.
C'est quoi le sujet?
Écoutez, on revient. D'accord. Alors, dans les informations, disons, plus légères et qui font du buzz, je m'intéresse d'ailleurs toujours, c'est toujours intéressant de savoir pourquoi, en l'occurrence, c'est sans doute Mme Macron qui a mis cela sur les réseaux sociaux. Yohann Ouzaï, vous l'avez vu, cette image.
C'est plutôt Anaïa Kamoura qui l'a posté sur
réseaux. Oui, mais forcément, elle a donné son accord.
Naturellement, j'imagine.
Elle a dîné dans le même restaurant.
Je crois que c'était un dîner. Je crois que c'était un dîner. Ah, c'était
Elle ne dînait pas ensemble.
Elle ne dînait pas ensemble, ils sont croisés.
Ah,
pour ça.
Ah, c'est pas vrai.
Ils sont croisés dans un même restaurant parisien.
Et vous savez, vous connaissez ce restaurant?
Oui, c'est un restaurant de la chaîne Coste. On ne va pas donner le nom.
Ah, pourquoi pas? Enfin, j'en sais rien. Mais est-ce qu'on a alors cette image? Il n'y a pas de son, hein, je crois. Il y a un petit peu de son, me dit Benjamin.
Moi, je l'éclaire, là. Je ne prends pas la vidéo.
Avec les filles.
C'est Hélène Mercier, écoutez. Hélène Arnaud, à côté.
Moi, je l'éclaire, là. Je ne prends pas la vidéo.
Allez. C'est Françoise qui manque.
Bon, alors, elle est avec Madame Arnaud, qui est avec Madame Macron, et donc Aya Nakamura. Mmh. Bon, je commande cette image parce que cette image est publique et qu'elle a une...
Ah oui, elle est publique.
Elle a peut-être un sens politique, peut-être.
Aucun.
Si on vous donnait un contexte politique, Ayana Nakamura avait été invitée à l'Élysée au mois de février, au moment où son nom avait commencé à bruisser pour diverses raisons sur les Jeux Olympiques. Et elle avait rencontré Madame Macron et évidemment elles se sont croisées hier soir ou avant-hier soir dans un restaurant parisien.
La rencontre n'a pas été organisée.
C'est Aya.
Comme vous et moi, on pourrait se retrouver dans un restaurant par hasard.
C'est Aya Nakamura qui a mis sur son compte Snapchat. Cette petite séquence, parce que c'est pas Instagram, c'est pas Facebook.
Facebook, et si Brigitte Macron donne son accord pour publier cette vidéo, c'est une manière de la soutenir aussi face à toutes les polémiques concernant le fait qu'elle chante à la cérémonie.
Oui, bien sûr.
Évidemment, c'est
mais moi, je la trouve exactement. Il a raison, Georges.
Mais dans cette vidéo-là,
pas du contraire.
Non, mais Georges.
De la légèreté.
Bien sûr. Exactement. C'est une manière de dire, madame.
De relativiser. Oui, de passer à autre chose.
C'est une manière de la soutenir.
C'est une manière de dire, si on décrypte l'image, elle est comme nous, elle est des nôtres, elle est avec nous. Et ça évite. Ça évite. Elle se prête par les épaules.
C'est mieux quand vous dormez.
Elle se prête par les épaules.
C'est peut-être mieux quand vous dormez.
Vous mettez un sablier devant vous la prochaine fois.
Elle fait le petit quinque.
Elle se prête par les épaules. Donc c'est un signe d'appartenance, écoutez.
Non, mais.
Enfin, non, c'est évident. Vous savez pas décrypter les images. Mais vous voyez bien que cette femme était victime de racisme.
Mais c'est pas non, le message n'est pas là du tout, si vous me permettez.
Si le message
il est clair,
la porte chantée comme les autres, c'est très bien. Allons-y.
Jérôme, avec trop, t'as toujours tort. Tu dors, tu te fais engueuler, tu te réveilles, tu te fais engueuler. Laisse tomber.
Le message, il est plus simple que ça. La présidence est avec Madame Aya Nakamura et la présidence. Entendra avec plaisir une chanson de Madame Nakamura le jour.
Est-ce que je peux?
Non, elle est des nôtres.
Elle est des nôtres. C'est pas la chanson quand vous chantez quand vous êtes bourré le soir. Réfléchissez à l'expression. Elle est des nôtres. Elle est avec nous.
On n'a pas d'alcool le soir.
Je vous en prie.
Il boit pas.
Bon, en plus je bois pas.
Est-ce que je peux suggérer que ce n'est pas très important,
Georges? Oui, non, c'est pas. Alors là, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas très important. Le couvre-feu, qui ne concernait pas évidemment Madame Aya Nakamura ni Brigitte Macron,
puisque elles n'ont pas 13 ans.
Puisque, exactement, ça converge. Alors, ça, c'est aussi c'est une polémique qui n'a pas de sens. Je veux dire, un enfant de 13 ans n'a pas à être dehors tout seul dans la rue.
Bah, évidemment.
Enfin,
normalement.
Mais normalement, oui. Donc, écoutez, M. Ménard, qui veut imposer cela, vous rendez compte, et qui va vous dire que la Ligue des droits de l'homme avait attaqué Robert Ménard parce qu'il proposait. Et elle avait eu gain de cause par le Conseil d'État, c'est bien ça.
Oui.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise ?
Ça m'étonne pas.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Écoutez.
Parce que c'est une évidence. Parce que c'est une mesure de bon sens. Je vous rappelle que je l'avais fait il y a 10 ans. Parce que des gosses, enfin je ne sais pas, vous avez des enfants, est-ce que vous croyez qu'un minot qui a de 9 ans, 10 ans ou 11 ans, il a à être tout seul en pleine nuit dans la ville? Bien sûr que non. D'abord, quand ils sont en bande, ils sont souvent des dangers. Et quand ils sont tout seuls, ils sont en danger. Et donc c'est pour ça que je l'avais fait il y a 10 ans. Il y a 10 ans, on avait été poursuivi, vous en souvenez peut-être, par la Ligue des droits de l'homme, comme si elle avait rien d'autre à foutre, la Ligue des droits de l'homme, que de s'occuper de ça. Je lui en donnerai d'autres sujets. Et ensuite, ça avait été du coup cassé par le Conseil d'État. Ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus exactement dans la même position. D'abord, les mentalités ont évolué. Regardez, au même moment où je fais ça, le ministre de l'Intérieur fait au fond la même chose. En Guadeloupe, c'est difficile de me dire, en Guadeloupe, le ministre a raison de le faire et vous, vous n'avez pas raison de le faire.
Georges Fenech.
Oui, on a dit qu'on était très attaché à la liberté d'expression. Je suis autant attaché à la liberté de circuler et d'aller et venir. On est tous d'accord pour dire qu'un gamin de 13 ans doit être chez lui à cette heure-là, tardive. Mais pour autant, vous vous rendez compte qu'on est en France, au XXIe siècle, qu'on va prendre des mesures d'interdiction générale de circuler dans notre pays avec des couvre-feux.
Georges,
comment vous comprenez pas
quand, normalement, une police municipale.
Quand il y a un défaut d'autorité parentale, c'est à l'État de prendre.
Mais Georges, même sans couvre-feu, comme dans un état. Georges, juste une chose.
Non mais franchement,
Georges,
laissez terminer, Georges.
Juste une question,
s'il vous plaît.
Même sans couvre-feu, une police municipale qui voit un gamin de 13 ans.
Il le ramène chez ses parents.
Oui.
Il y a besoin de prendre un arrêté.
Non mais
le
donc,
couvre-feu dans le cadre de l'état d'urgence de la loi.
Mais vous
1900...
étiez plutôt sur l'idée que
55.
Le gamin peut se promener à 13 ans.
C'était une loi de 1955.
Mais vous êtes sur l'idée que le gamin peut se promener
on
à 13 ans.
On l'a utilisé une fois quand il y a eu les émeutes de 2005.
Oui, oui.
C'était Dominique de Villepin qui avait pris un arrêté limité à 3 semaines le temps des émeutes. Et là, on voudrait instituer une interdiction générale dans notre pays, en France,
oui,
de tout mineur.
Oui, arrêter des phrases comme ça je pour les gens de moins de 13 ans.
Oui, ça me semble pas.
Mais on les, en les France, vous pouvez aussi les moins de 13 ans, pays des droits de l'homme, on la Révolution française.
Non, mais
oui,
personne ne veut la généralisation.
C'est les moins de 13 ans. N'a rien à faire dans la rue le
soir.
Des arrêtés d'interdiction.
Mais cher Georges, pourquoi est-ce qu'on le fait? C'est pour que les parents... Et responsabiliser.
On n'est pas capable de responsabiliser les parents.
Non, on n'est pas capable, en fait.
Des mesures d'interdiction
de circuit. Non, on n'est pas. Mais pardonnez-moi, c'est.
Je m'en désole, si vous voulez.
Mais c'est comme si vous me disiez, il faut rouler à 130 à l'heure et la liberté, au nom de la liberté, je peux rouler à 180.
Ça ne se fera pas.
Hein. C'est... Ah bon?
Ah bah, je suis sûr que le Conseil d'État accepte.
Ah non, le Conseil d'État.
Ah non, mais je crois pas. Je crois que les choses ont changé en 10 ans.
Il faut vraiment que Béziers, c'est en place.
Une mesure générale, d'interdiction générale, c'est contraire à toutes les grandes
principes. Maître Godnadel.
Qu'il y ait une mesure provisoire à certaines heures, certaines populations, mais dans un certain contexte.
Cher Georges, mais pas une mesure de programme générale. Cher Georges,
c'est après 23 heures, donc c'est limité dans le temps.
C'est partout qu'il y a des injonctions sur le code de la route, vous ne pouvez pas rouler à n'importe quelle vitesse de la même manière. Non, mais au nom de la liberté, votre argument, il ne tient pas.
On interdit la liberté de circuler.
Mais attention, c'est pour un mineur non accompagné.
On ne la réglemente pas.
C'est pour un gamin qui n'est pas accompagné.
Et après 23 heures.
Allons-y. Les interdictions de portée générale.
Gilles-William Goldman,
interdiction de circuler en France.
Je n'ai pas de portée générale.
Mais ce n'est pas interdiction
de circuler. Moins de 13 ans, non accompagné après 23 heures, c'est très encadré.
Gilles-William,
que tu puisses te désoler que M. Ménard en soit réduit à imposer un couvre-feu pour certaines personnes, compte tenu de l'état de la société, je le comprendrais. Mais tu ne peux pas dire que c'est quelque chose de généralisé. Si, puisque non.
C'est pas limité dans le temps.
Mais c'est limité par l'âge.
C'est limité jusqu'au 30 septembre prochain. Le couvre-feu mis en place hier soir et ce jusqu'au 30 septembre prochain.
Ça, c'est autre chose. Pour les vacances d'été, en
soi. Limité avec.
Changer d'avis.
Et à Pointe-à-Pitre, c'était un mois.
Là, on parlait d'interdiction.
Bon, allez.
Vitam aeternam, quoi.
Écoutons. Non, n'écoutons personne, d'ailleurs, puisque. On a fait le tour. On peut écouter Madame Sabrina Agresti-Roubache qui était ce matin sur le plateau de France 2.
Sur ce sujet.
Exactement.
Très bien.
Je ne sais pas si c'est une bonne mesure. Ce que je crois, c'est de dire aux parents déjà la première chose. J'aime bien quand on revient aux fondamentaux. Oui. Il faut dire aux parents qu'un mineur, un enfant, n'a pas à être seul la nuit dehors. Et si jamais un parent ne s'en sort pas avec son gamin, c'est la réalité.
La mère de famille, le père de famille, qui a un gamin qui leur a totalement échappé, il va dire dis donc, ce matin, j'ai entendu Sabrina rester au match, elle a dit c'est super intéressant, tu sors plus, il va dire t'es gentille maman, et il claque la porte.
Très bien, alors qu'est-ce qu'on fait?
C'est vous qui êtes aux affaires.
Ben oui, moi je suis aux affaires et je dis justement, les parents, quand ils n'y arrivent plus,
ils doivent. Est-ce qu'il faut taper sur les allocations familiales?
Non, ça je crois pas. Vous savez, non, on rajoute pas de la misère à la misère.
Et commencer en disant que, et là je peux vous rejoindre, quand on en est rendu à faire des couvre-feux pour ça, c'est effectivement désolant. Autre sujet, et il est à Toulouse celui-là.
Pas le faire serait pire. Oui.
À l'issue du 8e comité interministériel de la transformation publique, puis d'une visite de la maison France Service de Sceaux, Gabriel Attal a présenté la feuille de route de son gouvernement. Mais ce n'est pas exactement cela dont je voulais vous parler, puisque je voulais vous parler de Toulouse avec le proviseur, Toulouse avec ce professeur qui a été agressé par un jeune élève. Bon, c'était un élève, visiblement, qui était un élève de 14 ans, lourd antécédent disciplinaire, selon une source policière, qui a menacé son professeur de technologie. Et ça s'est passé hier. Je voudrais qu'on écoute le recteur de Toulouse.
Les faits sont simples. Malheureusement, un professeur, pendant qu'il faisait son cours, un des élèves, manifestement, avait un comportement irrégulier. Donc le professeur l'a rappelé à l'ordre. Et à un moment donné, l'élève s'est levé, l'a pris par le col de sa chemise, l'a plaqué contre le mur et lui a asséné quatre gifles, plus exactement. Le professeur n'a pas réagi. Ce que m'a expliquer le professeur lui-même, c'est que l'élève, était sorti de la classe par ses propres camarades. Et là, je voudrais vraiment saluer la réaction des 30 autres élèves de la classe qui ont vraiment compris qu'il y avait un geste démesuré, grave, qui s'est produit. D'abord, ils sont intervenus, ils ont pris leurs camarades qu'ils ont sortis de la salle. Et à ce moment-là, effectivement, manifestement, l'élève a proféré des menaces en disant des menaces de mort. Je vais te fumer, toi, tu verras. Voilà à peu près le contenu des propos de cet élève.
Bon, on va être extrêmement prudent sur cette affaire. Pourquoi ? Parce que ce jeune homme souffrirait effectivement de problèmes psychologiques importants. Donc, on peut d'ailleurs écouter la mère d'un élève, la mère d'un élève, hein, c'est pas la mère de cet élève, mais qui rapporte ce qu'elle sait de ce qui se passe dans cette classe.
En fait, il y avait eu un problème avec un professeur et qu'elle n'a pas vu ce qui s'est passé puisqu'elle n'est pas dans cette classe-là, mais ça a fait vite le bruit le tour du collège et que un enfant aurait porté la main sur un professeur ou du moins se serait accroché avec un professeur de façon physique. Choquée parce que c'est pas un garçon à problème, elle a été choquée que ça arrive avec cet enfant-là. Voilà.
Elle le connaît un peu ?
Elle le connaît un petit peu, oui. Oui, c'est quelqu'un qui est relativement calme, posé, qui n'a pas... voilà. Il y a des élèves plus perturbateurs que celui-ci, et elle a été un petit peu choquée plutôt de ça, oui.
Bon, je le dis, on va être prudent, et je vous propose de ne pas commenter cela, puisque là, il faudra attendre sans doute davantage d'informations. En revanche, vous allez pouvoir commenter le proviseur, puisque le procès du jeune homme de 26 ans qui avait menacé de mort sur les réseaux sociaux l'ancien proviseur du lycée Maurice Ravel à Paris a été renvoyé aujourd'hui au 26 juin prochain. Bon, et c'est la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la justice. C'est-à-dire que la justice, elle est incapable de prendre une décision rapidement. On l'a vu avec le 7 octobre, et ça peut... Il y a 200 jours, on en a... C'est pas ça.
Non, c'est là, quoi, c'est pas une question de rapidité. Pardon, excusez-moi. C'était une mauvaise orientation dans une mauvaise chambre.
Bah oui, mais alors, pardonnez-moi, c'est pire. Mais ils se sont trompés de chambre.
Il aurait fallu envoyer dans la 17e chambre.
Non, mais vous trouvez que c'est sérieux ?
Non, c'est pas sérieux. Je pense qu'ils auraient quand même dû juger. Voilà.
Bon, ben voilà. Donc vous dites la même chose que moi.
Je pense qu'ils auraient dû juger. C'est pas la lenteur de la justice, c'est ça que je veux dire.
Je vous assure, j'ai du mal à vous suivre de temps en temps.
C'est pas la lenteur de justice.
Oui,
c'est le fait qu'il y ait une mauvaise orientation.
C'est pire.
Non, mais pour le justiciable, c'est la même chose.
Attendez, parce que les gens ne savent pas de quoi on parle. Donc d'abord, écoutons Noémie Schulz, qui était sur place et qui nous fait un compte-rendu.
La présidente de cette chambre qui juge les affaires en comparution immédiate, c'est-à-dire très peu de temps après que l'infraction a été commise, a expliqué qu'elle n'était pas en mesure de juger ces faits. Il existe, a-t-elle rappelé, un tribunal spécialisé dans les affaires de presse et Internet. L'affaire a donc été renvoyée devant la 17e chambre le 26 juin prochain. En attendant, le prévenu, un homme de 26 ans en recherche d'emploi au casier judiciaire vierge et inconnu des services de renseignement, reste sous contrôle judiciaire avec l'obligation de pointer deux fois par mois au commissariat. Jugé pour avoir notamment écrit sur son compte X au sujet du proviseur du lycée Ravel, il faut le brûler vif, ce chien. Il a présenté une nouvelle fois ses excuses au chef d'établissement. Évidemment que je regrette les propos que j'ai tenus, ils sont ignobles, ils ne représentent pas la personne que je suis. Je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux que présenter des excuses. Le proviseur, lui, n'était pas présent à cette audience. Son avocat a fait savoir qu'il était toujours très choqué. Il a été pris dans un engrenage infernal à partir d'un mensonge, d'une élève, d'une manifestation devant l'établissement. Il a reçu une flopée de menaces de mort dont le prévenu est responsable. Le proviseur s'excuse auprès de vous. Il assure sa sécurité.
Bon, écoutons ce que dit l'avocat et après je donne la parole à Georges Fenech.
J'ai déjà parlé.
Ah. Je pense qu'il est toujours préoccupé, mais reste serein, tel qu'on peut imaginer, je l'ai déjà répété plusieurs fois, comme les hussards de la République. Il a conscience qu'il doit, à mon avis, faire face à des situations difficiles, même si lui se sent toujours peut-être menacé. En tout cas, j'espère que cette audience d'aujourd'hui et les autres qui suivront feront disparaître ces menaces, et pas seulement pour Maurice Ravel, mais pour tous les chefs d'établissement et les enseignants qui sont menacés dans des conditions inadmissibles actuellement.
Bon, j'ai lu, on déplace donc des gens, on explique qu'il va avoir un jugement, etc. Et à l'arrivée, il y a quelqu'un qui dit bah non, c'est pas le.
Je dois reconnaître, sans vouloir être.
Ça vous arrive souvent
Pardon.
Ça arrive souvent.
Des erreurs.
De se tromper de chambre
Non. Je suis malheureusement assez habitué à ce genre de couac.
Ah bon
Oui. Non, mais je vous en supplie. malheureusement, c'est coutumier. Et je vais vous dire quelque chose, pour relativiser un peu. En matière judiciaire, le 26 juin, c'est demain matin à 9h. Hein. C'est rien.
Rapide, c'est rapide, oui.
C'est très rapide, si vous voulez. La réalité, elle est là.
Mais est-ce que ça s'explique par une embolie du système?
Non, mais
le fait
pour
que
une affaire,
le,
si
non,
vous voulez,
les poids qui se multiplient.
Non, mais là, en non, plus, pour pas. Une affaire qui a défrayé la chronique, oui. C'est quand même un peu regrettable. C'est encore plus regrettable.
Mais oui.
C'est tout. Qu'est-ce que je vous dis? On tire pas sur une ambulance.
On peut dire
encore
un mot,
moins sur un corbillard.
On peut dire un mot quand même sur la défense de l'accusé qui dit « Je présente mes excuses, je ne me suis pas rendu compte de ce que je disais. » Pardon, il y a des précédents. Samuel Paty, on sait que c'est parti des réseaux sociaux. Quand on dit « C'est un chien, il faut le brûler », on sait exactement ce qu'on fait dans le contexte actuel. Il dit « Ses propos ne représentent pas qui je suis. » J'ai un peu de mal à le croire. Si, bien sûr, parce que quand on est capable, sur les réseaux sociaux, de dire « C'est un chien, il faut le brûler », je crois qu'au fond, c'est qu'on est quand même quelqu'un d'extrêmement mauvais et qu'on souhaite le mal dans cette société.
Non, mais ça, aujourd'hui,
les plus
s'excuse, voilà. Ça fait
quel âge il a
judiciaire.
Il a 26 ans, oui. Non, mais c'est un jeune homme, c'est la génération numérique. C'est-à-dire qu'il a grandi avec Facebook et il a commencé à dire...
Oui, mais tout le monde sait aujourd'hui les conséquences que ça peut avoir. Personne ne le découvre.
Mais je suis d'accord avec vous.
Et personne ne l'encadre non plus.
On en parlera le 17
juin. C'est le 26.
Le 26 juin et on verra...
On en parler le 17.
On verra la...
Si vous changez la date...
On verra...
Oui, en plus.
Si vous allez... Si vous allez le 17 juin...
Il n'a pas de conséquences.
Il n'y a rien qui va.
Il n'y a rien qui va ce soir. Je vais m'endormir comme Monsieur Jérôme.
Je vais m'emmerder, je m'endors pas. Enfin, pourquoi cette légende urbaine?
Non, moi j'attends de voir le montant de la condamnation.
Oui.
Parce que il est un peu, des faits graves.
Un peu grossier.
Ouais. Je trouve que, il n'a pas aimé votre réflexion.
Mais non, mais bon.
Il y a un mauvais climat.
Bon, je présente mes excuses au nom.
Là, c'était
bah, si, bah, pour ce qu'il a dit.
À la clientèle.
Pour mot qu'ils viennent d'entendre.
Ah bah oui,
les gens ne sont pas habitués. Il y a des jeunes gens, ils ne sont pas habitués à entendre des mots grossiers de ce type.
La formule, elle est des nôtres et pas mal reprise déjà. Ça fait
et après, on se demande pourquoi il y a des incivilités.
Ouais. Bravo.
Est-ce que vous l'avez eu dans Paris Match, Aya Nakamura?
Oui, il y a assez longtemps, mais pas récemment.
Et vous avez demandé l'interview?
Artistique, oui.
Vous avez demandé l'interview? Vous avez demandé?
Pas récemment, non. Je me demande si au moment de la polémique, on n'a pas demandé. Mais
parce que... Enfin, je ne suis pas votre rédacteur en chef, mais je trouve que ça serait intéressant de...
Oui, bien sûr.
De l'écouter.
Je ne l'ai pas entendu s'exprimer depuis l'affaire.
Bah justement.
Peut-être qu'elle n'a pas envie, mais on peut demander, oui. Ouais, je crois qu'elle n'a pas très envie.
Elle n'a pas envie de remettre une pièce à la machine.
Et je la comprends.
Kenji Girac.
C'est triste.
C'est incompréhensible.
Très triste.
À date.
Écoutons Augustin Donadieu. Manifestement, il y a plusieurs versions qui se mettent en place et il y a une sorte de mystère dans cette affaire ou dans ce fait divers.
Plusieurs versions semblent se dessiner, à commencer par celle de Kenji Girac qui, lorsqu'il a été pris en charge par les secours, a indiqué aux pompiers et aux gendarmes avoir manipulé seul cette arme et avoir tiré accidentellement. Mais depuis aujourd'hui, avec Florian Paume derrière la caméra, plusieurs personnes de la communauté des gens du voyage viennent nous raconter un scénario tout autre. Il s'agissait, selon eux, d'une soirée très alcoolisée avec énormément de tensions à l'intérieur du camp d'accueil des gens du voyage de Biscarrosse. Alors les enquêteurs, pour tenter de dénouer le vrai du faux, procèdent à de très nombreuses auditions parmi les proches de Kenji Girac, y compris sa compagne qui a été entendue hier. Cette dernière était présente dans la nuit de dimanche à lundi au moment du drame. Kenji Girac, lui, sera entendu par les enquêteurs dès lors que son état de santé le lui permettra. Le procureur de la République a ouvert une enquête pour tentative d'homicide volontaire et communiquera tous les éléments qu'il aura à sa disposition dès lors que Kenji Girac aura été entendu par les gendarmes.
Bon, là encore, je ne vais pas vous demander un commentaire parce que je vais prendre des supputations sur une affaire.
Moi, il m'est arrivé d'instruire, pas de cette gravité, d'instruire des affaires dans le milieu des gens du voyage. Jamais je n'ai obtenu un aveu ou une accusation ou quoi que ce soit. Vous leur mettez les empreintes digitales ou l'ADN sous les yeux, c'est pas le leur, ils ne comprennent pas. Ça ne parle jamais. C'est la loi de la protection du clan et de la famille. Donc ça ne m'étonne pas qu'on n'ait aucun élément qui sorte.
Ça existe dans d'autres milieux.
À ce point-là, mais ce sont des gens qu'on aime, hein, les gens du voyage. Mais quand il se passe un problème chez eux, ils le gardent chez eux. Ils ne veulent pas de la justice. Voilà.
La solidarité. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites.
Non, mais
et en
moi.
Même temps, ouais. Je vous écoute et je peux y trouver une forme, j'allais dire, de noblesse.
peut-être est-ce que je vous choque
en
disant cela.
Non.
Mais je voilà, une sorte de...
Quand une vie est en danger, il faut faire attention à...
Je suis d'accord. Protège, c'est pour ça que volontairement, je fais attention aux propos que je tiens.
Mais vous n'aurez jamais un gitan qui viendra témoigner contre... Jamais.
Oui, je peux trouver là-dedans quelque chose que...
Sauf qu'on est dans la République française et qu'il y a eu peut-être une tentative d'homicide.
Bien sûr, mais vous avez
besoin de
savoir. On ne peut pas faire des comparaisons avec d'autres milieux et d'autres clans. Ça serait mal interprété vu l'actualité. Mais ça existe en d'autres lieux, en d'autres latitudes, une solidarité de groupe.
Oui, mais vous avez...
Non, parce que avec l'affaire de ce soir, non.
Ben moi, ce qui m'interpelle...
Des sociétés méditerranéennes
à 11h45.
Il y a des sociétés méditerranéennes.
À une brocante avec des munitions. Le coup est parti de là, est sorti de là. Et l'arme, on l'a retrouvée dans un fossé, pardon, mais... Se suicide pas comme ça, quoi.
Bon, Emmanuel Macron a fait un clip. Et alors, ça, c'est intéressant. Emmanuel Macron, d'ailleurs, qui jouera demain avec le Variété.
Je ne vais pas recommencer sur les prouesses footballistiques du président.
Et vous êtes. Mais alors, ça, c'est intéressant ce que vous dites.
Ah non.
Parce que vous n'avez pas tort. C'est que.
Survendu.
Vous voyez, j'ai parlé du couple Macron à deux reprises aujourd'hui. J'ai proposé une image avec Aya Nakamura et Emmanuel Macron, lui, joue au foot avec Jacques Vendroux. Bon, c'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, mais c'est.
Et alors, comment il joue?
Je pense que c'est surtout comment les autres jouent contre lui, la question. Parce qu'ils sont. Pénalties, voilà, c'est touché.
Mais je ne vois pas les tacles à fusil sur le président, sur la cheville.
Derrière, il ne va pas.
Il est capable de rater un pénalty, excuse-moi.
Comment?
Macron
avait marqué un pénalty.
Non, mais il avait marqué un pénalty. Je ne sais pas si on l'a, le pénalty, mais le pénalty, le.
Le gardien
de but n'était pas vraiment.
Vous avez tendance quand même à minimiser les.
Mais c'est exactement comme le roi à Versailles qui jouait à quelque chose et tout.
Non, mais vous n'avez pas. Voilà. Bon, alors demain, en fait, c'est un match pour les pièces jaunes. Demain, il y aura Deschamps, Blanc, Carambeu, Drogba, Giresse et c'est tout. Il y a un plateau extraordinaire demain. Mais c'est vrai que je comprends que ça puisse agacer les uns et les autres. Et manifestement, vous êtes dans cette situation-là. Je peux vous dire également la scène, puisque ça c'est important.
Ah oui.
La scène, puisque Anne Hidalgo a dit qu'elle allait se baigner dans la Seine.
Chirac a dit la même chose il y a 30 ans.
Oui, mais là, elle annonce dans un mois.
Il y a une inauguration importante à Champigny-sur-Marne, je crois, d'une installation qui va permettre justement de...
Là, ça va... Enfin, je ne vais pas faire de jeu de mots, mais ça va peut-être être à Champignon-sur-Marne si tu te baignes, parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver. Oui. Donc, écoutons ce qu'elle dit.
Champigny-sur-Marne.
Voilà. Étape clé pour rendre la Seine baignable, la station de dépollution des eaux pluviales à Champigny-sur-Marne, là où était Georges Marchais,
bien sûr.
Mobilisés tous ensemble, l'État et élus, nous y arrivons. L'eau de la Seine sera fraîche, mais propre. Je pourrais vous le confirmer. Ça, j'attends de voir le président de la République prendre l'eau.
Ah, mais
est-ce qu'on
vite.
Peut écouter comment
il va nager plus vite que tout le monde.
Au sens propre ou au sens figuré?
Est-ce qu'il n'a pas déjà pris l'eau quelque part?
Oui, c'est ça. Oui.
Est-ce qu'on peut écouter Anne Hidalgo et s'il vous plaît, un peu de sérieux.
Il va y avoir ce grand plongeon dans la Seine que nous sommes en train de travailler sur une fenêtre qui sera autour du 23 juin ou la semaine suivante et qui nous permettra de venir goûter l'eau de la Seine, nager dans la Seine et qui sera un événement, je dirais, culturel tout autant que sportif. Avec sa grande portée symbolique. Et donc, nous plongerons dans la Seine et beaucoup de volontaires se sont déjà manifestés pour venir plonger avec moi et avec tous les sportifs qui seront là et avec toute mon équipe.
Bon, vous voyez, une des raisons pour lesquelles, par exemple, j'ai du mal avec cette époque, se baigner dans la Seine devient un événement culturel.
Oui.
Donc on est chez fou.
Oui.
Je pense qu'elle il y aurait un événementiel le jour de.
Mais elle le pense. Elle pense que se baigner dans la Seine, c'est un événement culturel. Donc la parole n'a plus.
Le mot est très mal choisi. C'est pas un événement culturel.
Oui, non. Après, c'est ce qu'elle a dit.
C'est un événement dans le sens où ça fait 30 ans que c'est promis. Jacques Chirac, effectivement.
Mais il faut prendre ça avec un peu de légèreté, pas ce ton-là de gravité.
C'est un événement majeur qui allait changer la vie des Parisiens. Ça n'est pas le cas parce que le nombre de Parisiens qui sont prêts à aller se baigner dans la Seine, pardonnez-moi.
Le jour où on pourra en effet le faire, il y aura peut-être des initiatives culturelles autour de la scène.
Mais elle n'a pas du tout dit ça. Je veux bien que vous interprétiez, qu'on réécoute.
J'ai essayé.
Mais vous avez écouté ça.
Ça se veut un langage idéologique.
Exactement.
Où c'est le mot culturel est.
Bien sûr.
Et voilà,
et moi, c'est Gilles Louis qui a raison.
Bien sûr.
Il n'est pas innocent, le mot.
Bien sûr que non.
Volontairement, il est mis là. Bien sûr, à sa place. C'est un événement culturel. Elle confond peut-être le mot.
Il y a un côté métaphysique.
Exactement. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur ces actualités. Mais il y a une actualité quand même un peu plus joyeuse et riante.
D'accord.
Et on va terminer par cela, puisque Céline Dion, c'est la une de Vogue. Alors, je ne sais pas. D'ailleurs,
je suis très jaloux.
Bah, j'imagine, oui.
Ah ouais, mais alors,
oui, parce que là,
Céline
Dion de retour dans Vogue, deux ans après avoir été diagnostiquée du syndrome donc de la personne raide. Elle a 56 ans, elle est superbe d'ailleurs, elle est belle. Et ses photos sont très réussies, je trouve. Céline Dion, elle se dévoile à Vogue France. C'est vrai, je n'ai pas combattu la maladie, dit-elle, elle est toujours en moi et pour toujours. On va trouver, je l'espère bien, un miracle, un moyen de la guérir avec les recherches scientifiques. Mais je dois apprendre à vivre avec. Elle n'annonce pas. Son retour sur scène.
Non. Elle ne peut plus chanter.
Vous pensez qu'elle ne. Oui, pour le moment, mais. Oui,
elle ne peut plus chanter.
Elle dit je n'ai pas combattu la maladie, on va trouver, dit-elle. C'est difficile, je travaille très fort et demain sera encore plus difficile. Demain est un autre jour, mais il y a une chose qui ne s'arrêtera jamais, c'est de vouloir, c'est la passion, c'est le rêve, c'est la détermination. J'ai essayé de travailler de tout mon corps et de toute mon âme et de ça. Pour que les gens comprennent, vous êtes dirigé par Image, Jérôme Béglé. Lorsqu'il y a une interview comme ça dans Vogue, c'est des mois de négociations, j'imagine, et sans doute que par Image avait demandé une interview.
Oui, on avait demandé. C'est des semaines, oui, ou des mois de négociation.
Alors, ils sont photographes.
Le photographe dont le nom m'échappe, mais c'est le photographe en vogue en ce moment, si je puis dire. Je pense que ça a été déterminant. Ils ont proposé le bon photographe à Céline Dion et je pense que ça a été assez déterminant dans son envie de faire cette entrevue.
Mais pourquoi Vogue, par exemple, qui n'est pas particulièrement.
Alors, moi, je pensais que ça c'est une espèce d'accord avec. Parce que Vogue a des éditions internationales. Je me suis dit, ils vont faire Vogue France, Canada, Italie, États-Unis. Apparemment, c'est que le Vogue France. C'est très bien, c'est un bon coup, chapeau, ils l'ont eu, pas nous, très bien.
Bon, est-ce qu'on peut écouter peut-être quelques notes de musique que nous a calé l'ami Benjamino de... Benjamino me dit que je ne lui ai pas demandé de musique, donc il ne les a pas.
C'est dommage.
Donc, je vous propose peut-être que vous pouvez chanter, si vous connaissez une musique de Céline Dion. Est-ce que vous avez une...
Vous voulez que je fasse Leonardo DiCaprio à la proue
est-ce que vous avez...
Non, mais... Pour que tu m'aimes encore.
Ah mais vous chantez bien. Ah si, vous chantez bien.
Non, je ne chante pas.
Mais pourquoi?
Non, mais vous chantez bien.
Elle
est trop difficile, celle-là, franchement. Tu m'aimes encore.
J'ai bien connu les mots.
Voilà, avec les flammes derrière.
Bien sûr, mais alors...
Dans les rues, c'est magnifique, cette chanson.
Si je la connaissais, je ne l'aurais pas pris.
Alors, écoutez.
Goldman, je crois.
Vous savez ce qu'on va faire? On va faire quelque chose que j'avais fait, je crois, une fois.
Est-ce que je peux rendre justice
à
M. Béglé?
Parce que
à la faute, sur la photo, là, à la télévision, on a l'impression que sa veste est rose fuchsia, alors qu'elle est d'un bordeaux vraiment très heureux. Je voulais te rendre cette justice.
Mais venant de vous, qui êtes un Brumel, cela m'a fait très plaisir.
Alors, chaque mot est
très... Regardez
la couleur.
La différence est flagrante.
Oui, regardez.
On fait exprès, hein.
Regardez, comme je l'ai dans ma playlist.
Ah, bravo. J'ai pris tous les mots. Merveilleux.
Non mais ça, avoir écrit ça,
c'est
j'irai chercher ton cœur pour que tu
l'emportes ailleurs.
Si tu l'emportes ailleurs. Quand t'as écrit ça, tu peux mourir tranquille. Ça, c'est une des plus belles chansons de toute la chanson française.
C'est l'album francophone le plus vendu au monde.
Eh ben, il en a fait 30 comme ça.
Et puisque tu pars,
c'est pas formidable aussi.
Et puisque tu pars, c'est formidable, mais c'est pas Céline Dion qui la chante. Donc,
D'accord, mais non, mais vous parlez
de... Écoute le refrain.
Tu pars. Il faut que tu saches. Regardez là, comment dire, la simplicité. J'irai chercher ton cœur. Si tu
et la voix,
une des plus belles voix du monde.
Et, oui, je suis d'accord. Vous l'avez qui l'a vu sur scène?
De nombreuses fois.
C'est vrai?
De très nombreuses fois.
Ah oui? Ah, parlez-moi de ça.
Oui. C'est toujours époustouflant parce qu'elle chante. On se demande si c'est du playback ou si elle est en live. Tellement elle est dans la perfection à tous les moments. Elle chante divinement bien. Elle a une technique vocale qui est absolument incroyable, une puissance vocale qui est absolument démente. Donc, c'est l'une des plus grandes voix au monde, véritablement. Oui, et j'espère qu'elle retrouvera ses capacités vocales parce que vraiment, c'est un phénomène. Je l'ai vu à Paris, je l'ai vu au Stade de France, j'étais un peu jeune. Je l'ai vu à Paris, je l'ai vu à Nice, je l'ai vu 5 ou 6 fois sur scène.
Il en parle bien, hein.
Mais il parle. Johan, il parle de tout. Très bien. Monsieur Olivier Benkemoun. C'est un jour particulier, 200 jours.
200 jours et à cette occasion, on va recevoir Hadas Jaoui Calderon. Elle sera avec nous dans un instant. C'est la maman de deux enfants, deux adolescents et un SAR qui ont été libérés au bout de 52 jours. Elle le raconte dans ce livre et puis elle continue le combat, évidemment, comme beaucoup de gens en Israël. Il y a encore 133 otages et vous le savez, tous les soirs, on parle des franco-israéliens. Donc ça sera un témoignage très important et on a eu beaucoup de témoignages en réalité aujourd'hui sur l'antenne de CNews. On va écouter beaucoup de choses.
Et on en a beaucoup parlé ce matin et on a eu une pensée effectivement pour ces trois otages français. Et on était avec Pascal Radou qui est la mère de Orion.
Tout le monde n'en parle pas comme ça.
Ouais. Merci beaucoup. Benjamin Nau était avec nous. Qui est à la réalisation, Benjamin, ce soir? Jean-Luc Lombard était à la réalisation et Philippe était à la vision. Et Jean-François Couvelard était au son. Merci à tous. Rendez-vous demain matin.